Sud Radio, Loft Music,
Yvan Cugios.
Mais où habite la beauté? Elle qui est immatriculée dans un département étrange. Un département où vivent des démons, des dieux et puis des anges. Un département bizarre qui la rend mystérieuse et décadente. Peut-être maudite, mais étincelante. Un département difficile à trouver, sur une carte, sur un plan à localiser. Mais quelle est l'adresse de la beauté? Comment fait-on pour la convoquer? Peut-être la nuit, répond-elle plus facilement? Accepte-t-elle les sorties, les invitations, les restaurants? La nuit, quand tous les poètes sont gris, quand les mots se lézardent, que le jeu et la mascarade se fardent. Peut-être la beauté met-elle le nez dehors juste à ce moment? Peut-être qu'elle s'apprête à honorer l'instant? La beauté, bizarre et fragile. Aujourd'hui, un vent d'hiver souffle en avril. Un vent d'hiver souffle en avril. Le départ de Christophe, 74 ans, c'était hier. Christophe nous a quittés et on va le célébrer. On va en tout cas en parler ce soir dans un Loft Music en direct spécial. Merci à Enzo, merci à Jamel pour cette petite réalisation sur ce texte que j'ai écrit et ces quelques notes de piano sur cette si belle mélodie des mots bleus qu'on va d'ailleurs réécouter dans sa version originale dans quelques secondes. On va recevoir plein de gens qui vont pouvoir nous parler de Christophe par des axes différents, bien évidemment. Nous aurons le collègue, comme on dit chez moi, Jacques Pessis, journaliste, écrivain, scénariste, qui est sur Sud Radio. Boris Bergman, l'auteur bien connu, notamment pour son travail avec Bachung et tant d'autres, mais aussi, en l'occurrence, avec Christophe. Et puis Pierre Mikhaïlov, journaliste, auteur, qui vient souvent nous rendre visite dans le Loft Music Sud Radio. Nous aurons aussi Jean-Michel Jarre. Et pour démarrer, Yves Bigot, journaliste, spécialiste de musique, mais en tout cas, on s'en fout un peu de ce terme de spécialiste, c'est surtout amateur de musique, passionné de musique et patron accessoirement également de TV5 Monde. On le reçoit juste après ça. Vous savez que vous pouvez vous aussi réagir, témoigner par rapport à Christophe, ce que vous aimiez chez lui, ce qui vous a marqué, ce que vous en pensez. 0826 300 300 pour ça. Tout de suite, ce sont les mots bleus.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec. avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux.
Toutes les chansons sont magiques, mais celle-là touche le sacré, il faut bien le dire. Extrait des mots bleus, l'album de 1974 de Christophe, dont on parle ce soir avec plein d'invités. C'est un texte, étonnamment, de Jean-Michel Jarre, qu'on connaît plutôt pour ses talents de musicien et de compositeur. Mais en l'occurrence, il a débuté en écrivant cette chanson, d'autres sur cet album, notamment Les Paradis Perdus qu'on écoutera tout à l'heure. Et puis, on aura Jean-Michel Jarre au téléphone dans quelques minutes. Pour l'heure, je suis ravi d'accueillir Yves Bigot. Bonsoir Yves.
Bonsoir Yvan.
Merci d'être avec nous Yves Bigot. Alors je le disais tout à l'heure, outre le fait que tu sois patron de TV5 Monde, eh bien tu es d'abord un passionné de musique, un journaliste musical, quelqu'un qui a œuvré dans le milieu musical justement en étant patron de label également. Donc tu connais bien tout ce tissu autour de la musique et surtout une passion, on va le dire, qui s'est exprimée notamment dans Je t'aime moi non plus, qui est un ouvrage que tu as publié il y a 2 ans, je crois, ou 2 ou 3 ans, où tu parles des amours complexes finalement entre la chanson et le rock. J'ai envie de demander à Yves Bigot, pour ouvrir cette discussion, si Christophe était précisément un rocker ou un chanteur français.
Ah, c'était, il sait très bien où sont ses fidélités, Christophe, puisqu'il s'est toujours revendiqué lui-même comme étant un bluesman. Y compris dans Aline, qui est pourtant un slow de l'été qu'on pourrait tout à fait assimiler à de la variété. Lui a toujours dit, et j'ai eu très souvent ces conversations avec lui, qu'il considérait que c'était comme du blues shout à la Eddie Cochran. Donc oui, bien sûr, Christophe, c'est quelqu'un qui était absolument passionné par Elvis, par Little Richard, Chuck Berry, Gene Vincent et tous les pionniers du rock. Et puis évidemment, par la suite, hein, les Beatles, les Stones, Bowie, Roxy Music, etc., jusqu'à Alan Vega, qui d'ailleurs était encore sur son dernier album, en tous les cas le dernier album de création, hein. Puisqu'après il y a eu les 2 albums de duo. Ouais, mais oui, bien sûr, Christophe, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le rock, qui l'adorait, et puis surtout qui a beaucoup travaillé sur le son, sur la musique elle-même. D'ailleurs, tu le faisais remarquer tout à l'heure, il n'écrivait pas ses paroles, mais il inspirait beaucoup ses paroles. De la même manière que le font d'ailleurs beaucoup d'interprètes, hein, qui sont pas eux-mêmes leurs paroliers, mais Christophe peut-être plus que la majorité. Que ces auteurs, et Jean-Michel Jarre a été le plus brillant d'entre eux, écrivaient pour lui, reflétait exactement sa personnalité et sa manière de penser. Il y a qu'à voir d'ailleurs le dernier des Bévilacqua, puisque ça raconte lui et son histoire et qui il est. Mais oui, bien sûr. Et en dehors de ça, évidemment, il connaissait très bien la chanson française. Il était extrêmement ami avec Salvatore Adamo. Ils ont d'ailleurs enregistré il y a relativement peu de temps, il y a 8 ou 9 ans maintenant, un Jour de Lumière, qui a été un très très gros succès, qui chantait en duo tous les deux, qui est une chanson de Salvatore, parce qu'ils avaient l'Italie en commun. Et par ailleurs, il adorait Brassens, etc.
Sa fidélité,
elle était au rock.
Oui, alors il a débuté, on va en parler tout à l'heure, avec Jacques Pessis, avec Hervé Villard, en pleine chanson de cette époque-là, François de Gelt, etc., où on était dans une tradition encore de la chanson bien marquée. Pourtant, lui, il a réussi à s'extraire de tout ça, cette vague yéyé qu'il amène comme ça dans les oreilles du grand public, ne le cloisonne pas, ne l'enferme pas. Comment on explique ça, Yves Bigot, que certains artistes aient réussi à s'extraire, je peux parler d'Étienne Daho, mais aussi de Michel Polnareff, de devenir comme ça des icônes chez nous dans la pop française, alors que d'autres se sont fait un peu engloutir, Yves Bigot?
Je pense que c'est une question de détermination, c'est-à-dire que Christophe, il a été prêt à ne pas connaître le succès pendant très longtemps. Il a eu plusieurs traversées du désert, après les succès de Aline, les marionnettes et Monsieur le Professeur. Il a eu une longue traversée du désert, jusqu'à son retour justement avec Les Paradis Perdus, Le Dernier des Bévilacois et Les Mots Bleus. Et puis ensuite, il a connu d'autres traversées du désert très longues jusqu'à, je dirais, sa rédemption complète au début des années 2000, avec notamment cet Olympia absolument incroyable et faramineux, où d'un seul coup, tous ceux qui ne le programmaient pas on semblait le redécouvrir et s'extasier devant lui, et fort heureusement, parce qu'il le méritait. Mais je pense que c'est sa détermination et son entêtement, comme c'est celui, comme tu le citais, d'Étienne Daho, notamment.
De Polnareff,
sauf que Étienne, lui, il a eu la chance de toujours avoir du succès. Il n'a jamais eu de traversée du désert. Il a toujours réussi à imposer sa vision de sa musique et de son personnage. Polnareff, c'est encore différent parce qu'il est parti aux États-Unis et puis parce qu'il a une personnalité, on va dire, encore plus...
Sulfureuse, peut-être.
Encore plus loufoque que Christophe, si c'est possible.
Ouais. Merci beaucoup, Yves Bigot. C'était un plaisir de t'avoir en ligne. Je t'aime non plus, c'est encore dans les bonnes crèmeries, comme dit l'autre, les amours de la chanson française. Et puis la relation, elle est mythique, elle est très intéressante à suivre, surtout écrite par Yves Bigot. Merci Yves,
merci,
bonne soirée.
Et il y a un chapitre sur Christophe, évidemment.
Eh bien oui, évidemment, comme il se doit. Salut Yves Bigot, merci beaucoup d'être passé par chez nous sur Sud Radio. On va écouter maintenant une autre grande chanson dont le texte est signé également Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, on l'aura au téléphone juste après. Christophe, Les Paradis Perdus.
Dans ma veste de soir je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Tandis, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre, te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là.
Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus.
Dans grandi, un peu maudit, un peu vieilli. Mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis.
Paradis perdu, Christophe, extrait de l'album Intime de 2014. Cette version piano-voix est merveilleuse. Dandy, un peu vieilli, un peu maudit, c'est tout à fait lui. Et c'est aussi vous, Jean-Michel Jarre, puisque c'est vous qui avez signé ce texte. Merci d'être avec nous ce soir, Jean-Michel.
Je suis heureux de partager ce moment avec vous et parler de mon ami Christophe. Évidemment, c'est pour moi aujourd'hui d'abord la disparition d'un membre de ma tribu, d'un ami, d'un complice unique, indépendamment de celle d'un des plus grands chanteurs français, comme on le sait. Et c'est vrai que je repense aujourd'hui à toutes ces chansons que j'ai écrites pour lui, Des mots bleus, Les paradis perdus, La Dolce Vita, Signorita et bien d'autres. Et à cette manière absolument unique qu'il avait de les interpréter, comme on vient de l'entendre, même des années plus tard, comme si à chaque fois il avait l'air de les découvrir. Mmh. Oui, c'est comme si c'était la première fois qu'il les chantait, car c'était aussi un acteur dans la vie comme sur scène. Mmh. Et puis ce qui est cruellement ironique aussi, c'est que c'est un artiste qui pratiquait le confinement dans sa vie.
Bien sûr,
et je pense tous ces jours effénés qu'on a passé en studio ensemble, sans sortir, à la recherche du son ultime. Et c'est tout à fait paradoxal. C'était aussi le roi de la distanciation diurne, puisqu'il il ne voyait personne dans la journée. Donc c'est cruellement paradoxal qu'il parte dans ces moments d'isolation de la planète entière. Quoi.
Ouais. C'est Jean-Michel Jarre, vous parlez de lui très joliment en disant que c'était votre frère de son. Parce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait la même manière d'aborder la musique et de la considérer? Est-ce que vous aviez cet axe commun, ce regard commun? Vous voyez la musique tous les deux de la même manière, Jean-Michel Jarre?
Oui, je pense que pour nous, la musique était une addiction et il y avait la recherche de la quête du son ultime. Vous savez, cette espèce de mirage, au fond, qui fait qu'un artiste continue d'avancer toute sa vie avec le fait un jour d'écrire le roman idéal ou le film idéal ou la chanson idéale. Et je pense qu'on avait ça en commun et que Christophe avait ça. Il était capable, comme je crois, je le suis moi-même, de pouvoir passer une vie à chercher la note idéale.
Et le son ultime. C'est une forme de poésie. On peut dire que c'était un poète, Christophe, selon vous ?
Ah, tout à fait. Bien entendu, c'est tout à fait. Parce que ce qui définit un poète, finalement, c'est de ne pas être dans les clous, c'est d'être hors norme, c'est de ne pas être à une époque où justement beaucoup de choses sont formatées, normalisées, c'est d'être différent. Et c'est la différence qui fait qu'on est touché par un artiste. Et moi, j'ai connu Christophe aussi bien avec ses airs de James Dean en Berluti que plus récemment avec sa gueule de mousquetaire avec ses grosses moustaches et ses bottes de mousquetaire, comme une sorte de Don Quichotte à la barre de sa console, là, prêt à pourfendre tous les moulins sonores du monde. Et il y avait ce côté-là.
Oui, Jean-Michel Jarre, vous dites en parlant de Christophe qu'il avait un rapport unique au langage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça ?
Ben oui, il avait un rapport unique. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer d'ailleurs dans les mots bleus. La difficulté de s'exprimer avec quand j'écris, je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. C'est tout lui, ça. C'est-à-dire le fait que ces silences sont pas nécessairement des silences chargés de sens, mais c'est chargé de sensations. Et c'est quelqu'un qui est comme ça, qui avait qui oscillait entre une extrême fragilité et une maîtrise absolue. Et ce rapport au langage, lui d'ailleurs ne s'est jamais défini comme un chanteur, mais il disait toujours, finalement moi je fais des sons avec ma bouche.
Ouais, chanteur de son, quoi. Ouais.
Voilà, au-delà de la boutade, ça voulait dire que pour lui, il considérait sa voix comme un instrument et pas comme juste une expression de mots. De mettre d'ailleurs ses chansons, il n'y avait pas la voix en avant et puis tout le reste derrière, c'était vraiment un ensemble.
Jean-Michel Jarre, on peut dire qu'il avait quand même une grande passion pour les mots, parce que au-delà du fait que le son était pour lui une priorité, en tout cas une entrée dans la création, on va dire, il rentrait par le son et puis il restait, c'est d'ailleurs Bachung qui disait ça, qu'on entrait dans une chanson, je crois, par la musique et on restait par le texte. Il y avait quand même ça aussi, c'est-à-dire qu'il avait cette capacité de choisir de bons auteurs, de très bons auteurs, et le souci d'avoir un sens dans les mots au même niveau que le son auquel il était très attaché. Il avait cette capacité de choisir de vrais beaux textes.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand moi je commence à travailler avec lui, il est en train de sortir, il sort de sa période yéyé de variété. Et en fait, on a tous les deux l'envie de faire des albums qui s'appellent juste une suite de chansons. Et en fait, on s'est cerné sans vraiment se parler. Il m'a jamais demandé quelque chose de particulier. J'étais surtout beaucoup. Il m'a beaucoup inspiré. Il m'a dit des années plus tard, finalement, tu m'aurais écrit que ces deux albums, ma biographie fantasmée. Et je trouve que c'est très beau parce qu'en fait, c'est ce que j'ai essayé de bâtir dans ces deux albums, Les Paradis Perdus et Les Mots Bleus, au fond, ce personnage très romanesque, à la fois le James Dean de La Fureur de Vivre et puis le Vitelloni de La Dolce Vita, le personnage de La Dolce Vita de Fellini, qui a ce mélange au fond très cinématographique. On avait à peu près les mêmes références. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de bâtir, ces espèces de légende en devenir, de fabriquer un personnage comme ça, un légendaire dans lequel il s'est glissé merveilleusement.
Jean-Michel Jarre, quand on voit les crédits derrière des chansons comme celle que vous venez de citer et qu'on voit votre nom, on est surpris, et le grand public doit l'être encore plus en ce moment, parce que plein de gens pensaient que vous étiez le compositeur et non l'auteur. C'est une surprise pour beaucoup de monde, j'imagine. Ça veut dire que vous avez beaucoup écrit de textes, pardonnez cette question peut-être un peu naïve, vous avez beaucoup et continué à écrire beaucoup de textes, Jean-Michel Jarre, après cette expérience avec Christophe.
J'ai toujours aimé écrire, j'ai sorti d'ailleurs récemment mon autobiographie Mélancolique Rodéo, qui est je pense un vrai livre littéraire, en tout cas avec une ambition littéraire. J'ai toujours beaucoup aimé les mots. Et en fait, quand on était en studio avec Christophe, on s'est aperçu très rapidement que l'album qu'on était en train de faire, on ne pouvait pas s'adresser à un parolier classique de chansons. Et donc, je m'y suis collé, notamment par l'amour des mots pour ce qu'ils représentent phonétiquement. Et je sais qu'à l'issue de ces deux albums, j'ai reçu un très beau message de Serge Gainsbourg qui m'a simplement écrit « Bienvenue au club », ce qui m'a évidemment fait très plaisir.
Ça veut dire beaucoup de choses, effectivement. Ce souci du son, évidemment. Jean-Michel Jarre, quand il était en séance, Christophe, il y avait cette traditionnelle position qui est assez incroyable quand on entend cette histoire racontée par ceux qui l'ont vécu, c'est qu'il était accroupi devant la console et il rentrait dans une espèce de transe ou peut-être une concentration ultime qui faisait qu'il y avait certainement un silence magnifique autour de lui et qu'il prenait ses séances de voix comme des actes spirituel, certainement.
Oui, je ne pense pas d'ailleurs même qu'il le prenait comme un acte spirituel. Je pense que c'était simplement beaucoup plus pragmatique que ça. Dans les studios, après, c'était avant les home studios, mais dans les studios où il y avait la vitre qui séparait l'ingénieur du son de la salle, du studio, il détestait de l'autre côté de la vitre. Donc il adorait être dans la cabine, sauf que dans la cabine, quand il y a le son des haut-parleurs, ça repisse dans le micro et c'est pas pratique. Donc en fait, il se mettait à quatre pattes sous la console, avec un micro en plus qui n'était pas un micro très professionnel, mais qu'il adorait. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup fait le son au départ de Christophe. C'est-à-dire cette espèce de son un peu de pas de haute fidélité, mais qui était un peu mélancolique, un peu géniard presque, qui donnait cette espèce de côté un peu étrange et bizarre, et qui en fait faisait partie de sa patte sonore.
Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'être passé par ce Loft Music en cette journée qui pour vous est une épreuve. Je sais tellement vous étiez attaché à cette amitié, ce lien qui vous unissait à Christophe. Merci Jean-Michel Jarre, merci beaucoup d'être
merci
passé
à vous.
Par le Loft
merci.
Music.
Merci,
à bientôt.
Revoir.
Dans quelques secondes, on aura Boris Bergman au téléphone qui a écrit évidemment pour Christophe. Nous irons également du côté de Jacques Pessis et vous pouvez aussi nous joindre pour témoigner votre affection à Christophe. 0826 300 300.
Sud Radio, Loft Music,
Yvan Cugios.
Merci d'être avec nous ce soir dans ce Loft Music en direct sur Sud Radio pour évoquer Christophe qui nous a quittés hier à l'âge de 74 ans et on se balade autour de son univers, autour de ce qu'il a fait, de ses chansons, avec des gens qui l'ont connu, avec des gens qui l'ont aimé, avec des gens qui ont travaillé avec lui. Et vous, si vous le souhaitez, qui pouvez nous joindre sur le 0826 300 300. Tout à l'heure, on aura Pierre Mikhailov, journaliste et auteur, et puis l'ami, le collègue Jacques Pessis, qu'on ne vous présente plus, et tout de suite l'un des grands paroliers français qui a été connu du grand public certainement par sa relation de travail avec Alain Bashung, mais pas que. On l'accueille tout de suite, Boris Bergman. Bonsoir mon cher Boris.
Bonsoir. Bonsoir Yvan.
Merci d'être là Boris. Alors on parlait tout à l'heure justement du rapport un peu unique qu'entretenait Christophe au texte. Je sais qu'il fallait certainement, Boris, toi qui as écrit un album Samouraï en 76 et puis d'autres chansons, notamment je crois que c'est Je l'ai pas touché,
oui.
Si je ne m'abuse.
Voilà.
Est-ce qu'il fallait certainement, dans l'approche qu'il avait très musicale de la chanson, être extrêmement fidèle à la musique, à la syllabe près, non, quand on écrivait,
oui,
pour lui, Boris Bergman.
Phrasé, oui, c'est-à-dire que... Bon, moi, ça tombait bien, parce que c'est l'époque où le sort a décidé que j'écrirais en version originale sous-titrée, puisque quand j'écrivais en anglais, en français, deux personnes différentes. Donc je suis arrivé au studio Ferber, première rencontre avec Christophe, dû d'ailleurs à Francis Dreyfus, que je sais que Jean-Michel lui a donné un petit coup de chapeau. Moi, je lui donne aussi un petit coup de chapeau parce que c'est lui qui a eu l'idée de faire appel à moi pour cet album de Christophe, à une époque où il faut bien dire que entre le mec qui faisait une erreur, ma mère, et le mec qui refaisait une erreur, il n'y avait pas vraiment beaucoup de coups de téléphone à la maison. Je suis arrivé au studio Ferber et j'oublierai jamais, j'entendais Christophe chanter, puis je regardais derrière le micro, il n'y avait personne. Et à un moment, l'ingénieur du son, René Hamelin, paix à son âme aussi, grand, grand bonhomme, a pointé son index vers le bas. Alors je me suis penché et j'ai vu que Christophe était en chien de fusil sous la console en train de chanter. Et effectivement, il râlait à l'époque parce que j'avais un petit peu débordé. J'avais fait ce que je confiais en anglais, j'avais joué sur les muettes pour ajouter une note de plus, pour faire des anacrous, et un petit truc qui permette de donner un début de phrase. Enfin, il n'était pas content du tout. Et d'ailleurs, par la suite, quand j'ai retravaillé avec lui, alors là, c'était, c'était vraiment des découpes extrêmement précises. Alors on pouvait croire quand on l'entendait de temps en temps que c'était improvisé, mais comme il refaisait exactement, hein, quand il disait un, on disait bon, allez, je vais en rajouter une, je vais en enlever une, il n'y verra que du feu. Pas du tout, il fonctionnait beaucoup en anglo-saxon, c'est ça qui est incroyable. C'est que,
oui, pour toi, c'était facilitant.
Bah, c'est-à-dire que pour lui, il avait compris que le son avait un sens et que ce qu'on racontait, ça prenait plus du même sens si on donnait la priorité au son.
Ouais. Boris Bergman, toi qui as écrit, je le disais, entre autres pour tellement de gens, mais entre autres pour Alain Bashung, il y avait une vraie relation d'amitié entre vous. Est-ce que le fait de travailler de près comme ça avec un interprète aboutit forcément à une relation d'amitié ou pas forcément? Est-ce que c'était le cas avec Christophe?
Écoute, si je peux citer France Info, ils m'ont dit est-ce que vous aviez une amitié, est-ce que vous avez perdu un ami sincère? Et j'ai dit, honnêtement, c'était un tel introverti, je ne sais pas si j'étais son ami. Honnêtement, je ne sais pas. Amitié avec Christophe, c'est très très difficile parce qu'il était quand même très très ouvert, comme j'ai fermé sur lui. La seule chose que je retiens, c'est que j'ai eu des grands moments d'amitié ponctuelle avec lui, un peu comme on a eu des rendez-vous sur comme ça sur une quarantaine d'années, en fin de compte. Et j'ai vraiment, quand tu m'as posé la question, Yvan, je me suis vu immodestement en Jean Ackman dans L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, avec en face Pacino, deux SDF qui vont dans des directions différentes et qui vont finir par aller boire un coup et à faire un bout de chemin ensemble. C'était un peu comme des rendez-vous, que quelqu'un de extérieur à nous aurait voulu. C'est vrai que le premier album avec Christophe, ça s'est très bien passé, mais si je peux te dire la vérité, j'ai surtout discuté des textes à l'époque avec Francis Dreyfus, et quand Christophe...
Le producteur, donc
comment?
Le producteur, je dis, l'autre.
L'éditeur, et il faut bien dire le mentor, hein, celui qui a...
Oui.
On peut dire que Christophe, qui après la suite écoutait que lui... Et ses compositeurs. Un autre qu'il faut citer aussi, c'est Christophe Van Uffel, hein, qui a co-composé pas mal de chansons de Chris et qui a réalisé aussi pas mal de titres. Et qui est pas loin de chez vous d'ailleurs, je sais pas où il est, mais il est pas loin de Valence, quelque chose dans ce genre-là. Et ce qui était drôle, c'est que Christophe, à l'époque, bon, on était tous les deux des fous de cinéma, des collectionneurs de films. De temps en temps, il m'appelait, je me disais, il va me faire un commentaire sur le texte que je viens de lui envoyer. Et en fin de compte, il me parlait de cinéma. Il me disait, oui, j'ai trouvé une copie de Ben Hur, machin, etc. J'ai eu des rapports surréalistes. Je pourrais faire un long métrage avec lui. Mais, je crois, enfin, il y avait, de toute façon, une chose qui était certaine, c'est qu'il y avait un vrai respect mutuel. Alors bon, le respect, c'est quand même c'est la porte ouverte à l'amitié. Mais honnêtement, je sais bien, quand on dit honnêtement, ça veut dire pas forcément qu'on va l'être, mais sinon on le dirait pas. Pourquoi je l'ai dit d'ailleurs? quand j'y réfléchis, en anglais je dirais at the end of the day, alors, en fin de journée, je dirais que oui, je crois qu'il y avait quelque chose, mais ça a été, il était tellement dans son truc, quoi. Il était tellement, il vivait la nuit. Moi, je veux dire, une des dernières fois où je suis arrivé pour travailler avec lui, bon, il m'avait accordé un rendez-vous à 9h du soir. Quand je l'ai interviewé, d'ailleurs, c'est Mikhailov qui a fait les interviews film sur Revenu Johnny Key qu'il avait fait. Il nous avait donné rendez-vous à 1h30 du matin, quoi. Parce que, évidemment, lui, non mais c'est vrai. Oui, et moi, moi à 4h, je me suis endormi sur le combo. Il paraît que j'ai ronflé sur le combo. Voilà, bon, je crois qu'il y a eu quelque chose, C'est pas avec Bashung, on a fait 7 albums, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a forcément de l'amitié pour être dans la même pièce en permanence. Et à un moment, sinon c'est comme un couple. Au bout d'un moment, ça devient Virginia Woolf, tout le monde se crêpe le chignon. Mais ce qui est très curieux, c'est pour moi, je suis très reconnaissant à la fois à Francis Dreyfus et à Christophe, parce que grâce à lui, pour la première fois, j'ai écrit en version originale sous-titrée. Grâce à lui, pour la première fois, j'ai superposé toutes mes envies d'écriture dans des langues différentes sur la même personne. Okay. À l'époque, l'album a été, mais alors, un succès quasi gigantesque. Je me suis même fait engueuler par certains critiques. Et puis, quelques années plus tard, il me téléphone. Et comme si de rien n'était, comme si un peu, comme si je l'avais appelé avant-hier, ce qui était sympa. Moi, c'est sympa de reprendre la conversation. Et c'est devenu, je l'ai pas touché, qui a été, il faut bien le dire,
oui, c'est ça.
Là, une chanson, celle-là a marché quand même. Bon, ouais. C'est vrai qu'elle n'est pas dans les chansons fondatrices de Christophe. Les chansons fondatrices.
Il y a l'album Samouraï également, oui. Dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, les chansons fondatrices de Christophe, c'est Jean-Michel Jarre qui en a fait les textes. Mais on va dire que je l'ai pas touché. En plus, Raphaël a repris la chanson après.
Oui, dernièrement, absolument.
Oui, et puis, après lui, il l'a repris.
Merci, Boris.
Et puis, il l'a repris avec Christabel aussi. Et
absolument.
Puis, voilà. Et puis, il a repris Alcaline aussi de Bachung. Ça, c'est important.
Mais je sais, absolument, absolument. Merci, Boris Bergman, de nous avoir fait ce petit coucou. Et merci et bravo pour cette collaboration et cet album 1976, Samouraï, que tu as écrit avec Christophe. Merci, mon cher Boris Bergman.
Merci, et à tout mon bientôt, cher Yvan Pijous.
Salut, Boris. Merci beaucoup. Salut, la bise. On va avoir le collègue Jacques Pessis dans quelques secondes qui va nous parler des débuts de Christophe. On va écouter juste auparavant cette version live à l'Olympia de Aline dans le Loft Music sur Sud Radio pour une spéciale Christophe ce soir avec vous.
Je vais dessiner sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage. Dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme. La belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire, sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline. Qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé, et j'ai crié, crié. Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
C'était un live à l'Olympia, Aline, Christophe, dont on parle ce soir, que l'on évoque. Il nous a quittés hier, Christophe, à l'âge de 74 ans, et on l'évoque depuis ce début d'émission, avec successivement Yves Bigot, avec Jean-Michel Jarre, avec Boris Bergman, et tout de suite avec l'ami Jacques Pessis. Bonsoir, maître Jacques.
Comment ça va ? Bonsoir, maître Yvan.
Merci d'être avec nous, Jacques. Alors, journaliste, écrivain, scénariste et j'en passe, amoureux toi aussi de la chanson française et fin connaisseur, notamment du début de Christophe, puisque je crois que les débuts se font dans une petite famille restreinte constituée, par exemple, d'Hervé Villard ou de François de Gelt à ce moment-là.
Cette année-là, on a oublié peut-être, Aline a été le succès de l'été 65, mais la même année, il y a un jeune chanteur en qui personne ne croyait, qui est Hervé Villard, avec Caprice est fini. Et il y a un ancien qui revient avec Le ciel et le soleil et la mer, François de Gelt. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de rivalité. Les trois étaient heureux de leur sort, à tel point que ce matin, Hervé Villard sur Facebook a salué avec affection son vieux copain Chris, son copain de toujours, car ils ont connu tous les deux des moments heureux et des moments difficiles. Parce que finalement, Aline, ça a été un immense succès, Yvan. Mais moi, je me souviens très bien à l'époque, personne ne croyait en la suite de Christophe. On disait, c'est un feu de paille. Et il y a eu Les Marionnettes derrière, qui a été un énorme succès, et il a enchaîné ensuite avec d'autres chansons.
Bien que Jacques, le succès d'Aline n'était pas, le titre Aline n'était pas le tout premier, hein, c'est ça, de Christophe. Non. Il y en avait un juste avant.
Oui, ça s'appelait Reviens Sophie, c'est-à-dire que c'est toujours des histoires d'amour ratées. Hein. Reviens Sophie, elle est partie, elle n'est pas revenue. Aline, elle n'est pas revenue. Et cette chanson, en fait, il l'avait testée au Golfe de Rouault. À l'époque, Henri Leproux dirigeait cet endroit où Johnny, Sheila, Eddie Mitchell, Dick Rivers et beaucoup d'autres venaient. Christophe venait y chanter. Et son premier disque a été parrainé par le Golfe de Rouault, donc c'était le label Maximum de l'époque, et n'a eu aucun succès. Et pourtant, quand on écoute cette chanson, il y a toutes les racines musicales de Christophe. Parce que c'est intéressant, quand il est enfant, il aime Brassens, Beco et Piaf. Oui. Et puis
c'est
Chopin,
ce qu'on disait
parce que sa tante qui joue Chopin au piano.
Et puis il y a l'influence anglo-saxonne qui arrive.
Ah, tout de suite. Tout de suite, donc, quand il découvre le blues et le rock, il se dit même, je ne pourrai plus jamais chanter en français, je chanterai qu'en anglais. Et il crée des petits groupes. Et ses débuts, bah, il les fait dans un petit cabaret près de Paris, dans une cave, où il s'appelle encore Daniel, mais pas Christophe. Et ensuite, il chante près du boulevard Saint-Michel en faisant la manche et personne ne l'écoute en réalité.
Ouais. Alors je crois il a pris ce pseudonyme de Christophe parce que il aimait les voitures et que donc Saint Christophe, le patron des automobilistes ou lui a donné l'idée, l'envie d'avoir ce pseudonyme Christophe qu'il a pris très tôt.
Oui, les voitures, ça l'a toujours intéressé. À l'école, par exemple, il ne fichait absolument rien. Bon, ses parents se sont séparés, l'ont mis en pension et entre 12 et 16 ans, il a été renvoyé de 10 pensions. Et quand on écoute « Excusez-moi, monsieur le professeur », ça correspond, à mon avis, à une histoire vécue. Ça,
oui, certainement.
Il a dû recevoir quelques coups de règle. Et la seule chose qu'il faisait à l'école, c'était draguer les filles et dessiner des voitures. Et il a rêvé d'être pilote de course. Il voulait être pilote
lui
de
aussi.
Formule 1. Et il s'est payé des très, très belles voitures. Il y a eu d'ailleurs quelques accidents. Mais il roulait à l'époque à 200-300 ou à l'heure. Et à la fin de sa vie, je peux vous assurer qu'il n'avait plus de permis.
Jacques Pessis, tu l'as interviewé de multiples reprises et tu me confiais, quand on s'est appelé cet après-midi, qu'il n'était pas facile d'interviewer. Je n'ai pas eu cette occasion et ce plaisir de recevoir Christophe, malheureusement, mais il avait une espèce d'angoisse ou de peur des interviews et il n'était pas si à l'aise que ça. Tu m'as dit ça, Jacques Pessis.
Oui, c'est-à-dire que quand on parlait avec lui, et j'ai souvent parlé avec lui, mais c'était une fascination parce qu'il avait une culture, il regardait tout, il était au courant de tout ce qui se passait à la télévision, il avait tout vu la nuit, et dès qu'il y avait un micro, il paniquait, l'angoisse, à tel point qu'il y a des émissions de télévision, on le voit transpirer à grosses gouttes quand il arrive sur le plateau. Il avait peur des interviews, et je t'assure, Yvan, que j'ai fait quelques interviews avec lui, et qu'ensuite il y a eu un peu de montage pour que l'interview soit compréhensible. Mais c'était l'homme, il avait peur de ça, il était un créateur dans le sens noble du terme, et c'était un homme d'une culture, d'une gentillesse, d'une générosité incroyable.
Oui. Il s'est toujours renouvelé. Si je te demande, toi, Jacques Pessis, de me citer une chanson, tu serais plutôt sur quelle chanson de Christophe, Jacques Pessis ?
Il y en a une qu'on n'a pas beaucoup entendue depuis ce matin et que j'aime beaucoup, c'est Señorita. Je trouve que c'est un rythme fabuleux et j'adore cette chanson. Et j'adore aussi Les Marionnettes. Et c'est pour moi les deux chansons à fait étonnantes et qui sont des chansons archi populaires. Parce qu'on a dit que Christophe n'était pas populaire, c'est pas vrai. C'était au départ, et même avec ses mélodies les plus complexes, un grand chanteur populaire.
et qui a su devenir populaire, certainement. Quel était, on en parle avec Yves Bigot, peut-être dans une démarche extrêmement libre, c'est-à-dire que avant de chercher la popularité, peut-être on cherche, en tout cas quand on s'appelle Christophe, à avoir la plus grande liberté de création, à ne pas être enclavé dans un style, dans aucune obligation, mais finalement d'être libre. Et cette quête de liberté l'a certainement amené à cette notoriété et à cette cohérence, à cette intégrité que le public finalement, et tu vas me confirmer ça Jacques Pessis, reconnaît systématiquement. L'intégrité, la justesse dans l'intention, le public ne se trompe jamais Jacques Pessis.
Ah ça, le public ne se trompe jamais. Des fausses valeurs, on en connaît quelques-unes avec des chansons faites sur un coin de table en deux minutes. Christophe lui mettait un an. Il a ruiné quelques producteurs. Il s'est fâché avec Francis Dreyfus, son producteur, parce que vraiment, il passait des nuits et des nuits à trouver la bonne note. C'est-à-dire que Laurent Voulzy, on dit qu'il fait un disque tous les 5 ans parce qu'il cherche la bonne note. Christophe, c'était ça multiplié par 100.
Oui, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Michel Jarre. Il appelle ça le son ultime, c'est-à-dire vraiment comme si c'était la dernière création qu'on ferait, et donc il faut qu'elle soit au-delà de tout, qu'elle soit parfaite, qu'elle soit idéale. Et ça, c'est la quête éternelle du créateur et de l'auteur, ou du poète d'ailleurs, écrire le meilleur poème.
Ben, Charles Aznavour m'a toujours dit « Je considère qu'une chanson est terminée quand je n'ai plus une note ou un mot à ajouter. » C'était ça pour Christophe, quoique je pense qu'il aurait toujours voulu rajouter quelque chose pour que ce soit encore plus que parfait.
Merci mon cher Jacques Pessis d'être passé par ce Loft Musique, et merci, on est tellement heureux de t'avoir et fier sur Sud Radio mon Jacques. Merci beaucoup.
Ah, c'est réciproque, je peux t'assurer Yvan.
Merci beaucoup Jacques, ça me touche beaucoup. À tout bientôt Jacques, et prends soin de toi et de toute la famille. Salut Jacques, merci d'être passé par...
Et toi aussi, et que celles et ceux qui nous écoutent prennent soin d'eux, fassent attention parce qu'on tient à eux, et la vie sera belle après tout ça.
Merci beaucoup mon Jacques, à tout bientôt. On continue à évoquer Christophe ce soir, on va recevoir Pierre Mikhaïlov dans quelques secondes, journaliste lui aussi, auteur, même musicien d'ailleurs, l'ami Pierre Mikhaïlov. On va reparler un petit peu, faire un petit peu la synthèse avec lui de ce qu'on a dit ce soir, finalement assez rapidement hein, sur Christophe, parce qu'on pourrait passer beaucoup, beaucoup plus d'heures à évoquer l'univers et la démarche artistique de Christophe. On écoute cette... Alors c'est une reprise qui a fait partie d'un album Christophe etc., tel est son titre, en 2019, où il y avait des duos, et Christophe n'aimait pas refaire des choses qu'il avait déjà faites. Donc quand la maison de disques lui avait proposé de faire ces duos, il n'était pas très 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 favorable, et du coup il a trouvé comme démarche artistique de proposer aux gens qui reprenaient ses chansons et avec qui donc il faisait les duos de recréer les ambiances, c'est-à-dire de réaliser eux-mêmes et d'arranger eux-mêmes les chansons, et lui ne venait que pour mettre la touche finale. Là en l'occurrence c'est Camille qui s'est chargée de cette petite fille du soleil. Écoutez, c'est juste magnifique sur Sud Radio.
Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde un souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. Viens trop bruit.
Petite fille du soleil, Christophe, dans cet album Christophe etc. en 2019, où il a revisité en duo un certain nombre de ses grands titres. Et là, en l'occurrence, c'était un featuring avec Camille. Dans ce Loft Music ce soir en direct sur Sud Radio, nous évoquons la carrière de Christophe. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous le dis un peu tard peut-être, mais encore quelques secondes. Et puis de toute façon, quelques minutes, vous enchaînerez tout à l'heure à 21h avec Toute Vérité et Bonne à Dire avec Didier Maistre. Voilà notre fin connaisseur de la chanson. Juste pour vous dire également, tant que je suis dans les infos, que lundi, nous nous retrouverons même heure, même endroit avec Julie Zenati et Yvan Le Bolloc, notamment, et puis vous, sur le 0826 300 300. Et puis mardi, ce sera Patrick Bruel, puisque nous avons décalé l'émission Actualité oblige. Voilà que arrive dans ce Loft Music, alors il ne frappe pas en plus, c'est ça qui me dérange quasiment, je le vois à côté de moi, Pierre Mikhaïlov. Salut mon Pierre.
Salut Yvan, salut.
Journaliste, musicien, écrivain, scénariste, on citera les Désaxés pour le groupe pop dans lequel tu as œuvré en son temps. Et puis là, bon, voilà, tu écris notamment dans les airs rock, hein, je crois, enfin dans plein d'endroits.
Alors non, dans voilà, rock and folk.
Dans rock and folk.
Oui, il y avait rock. Il y avait rock dans le titre, exactement.
C'est ça.
Tu avais presque gagné.
J'avais presque gagné. Alors, on parlait de rock, justement. Je posais la question en ouverture à Yves Bigot. Est-ce que pour toi, et en synthèse un peu de tout ce qui a été dit, on peut dire que Christophe est un rocker, finalement?
Alors oui, en fait, je pense qu'il se prenait pas du tout pour un rocker. Il savait très bien où il se trouvait par rapport à la musique et par rapport à la chanson française. En revanche, il avait une attitude très rock, ça c'est vrai. Et il avait des racines très rock and roll. Alors c'est vrai qu'il me racontait qu'il avait commencé par écouter la musique qu'écoutaient ses parents et qu'on écoutait en France à l'époque, les Brassens et les autres, et que d'un seul coup, il découvre sur Radio Caroline, une radio pirate anglaise, le rock and roll, et là, il se prend dans les oreilles tous les pionniers du rock qu'il va continuer d'écouter toute sa vie, et surtout le blues. Ça va être aussi un gros fan de blues, et puis du label américain Sun, le label qui a révélé Elvis Presley. Et d'ailleurs, en bonne place sur les étagères de son salon, il y avait une photo, magnifique photo noir et blanc d'Elvis Presley. À côté aussi, pas très loin, d'une photo de noir et blanc aussi d'Alain Bachung. Il avait ce côté comme ça d'avoir auprès de lui les gens qu'il aimait, au moins par leur représentation.
Il y avait un côté, on l'a pas trop évoqué ce soir, mais alors peut-être qu'il est commun à tous les artistes, à tous les créateurs, mais extrêmement enfantin, enfant. C'est-à-dire qu'il y avait dans sa manière d'approcher la composition une démarche extrêmement ludique, Pierre Mikhaïlov.
Ouais, absolument. Et il m'avait dit qu'il se sentait pas vraiment musicien, qu'il regardait il avait pas de formation musicale, c'était un autodidacte. Et il m'avait expliqué qu'il regardait les touches de son piano avant de se mettre à jouer, à composer. Et puis, voilà, il se faisait comme ça, il trouvait une suite de notes et ça devenait une mélodie, ça devenait une chanson. Et c'était son processus de travail. Et puis après, il y a eu tous les synthés qu'il a découverts, qu'il a collectionnés, les Moog, les ARP, etc. Ouais. Et ça, c'était très important pour lui aussi, les machines. Il adorait les machines, les magnétophones, les chambres d'écho et toutes ces choses.
Oui, et justement, l'écho, tu en parles et tu fais bien, a été assez fondamental dans le son de sa voix, parce qu'il a rapidement découvert qu'on pouvait réverbérer, mettre de l'écho sur la voix, et ça a été une marque de fabrique assez vite dans sa manière de chanter.
Absolument, ouais. Parmi les gadgets comme ça qu'il appréciait et qu'il mettait sur sa voix, il y avait la réverbération. C'était un gros fan de réverbération, ouais, absolument. Peut-être parce que aussi, comme le rappelait Jean-Michel Jarre, il ne se sentait pas vraiment chanteur et qu'il avait besoin de travailler sa voix comme un instrument.
Il écoutait beaucoup, selon toi, d'autres musiques, certainement, mais peut-être que tu vas le confirmer ou l'infirmer. Il était très curieux de ce qui se passait, notamment dans la jeune génération, je crois, Christophe.
Oui, absolument. Alors, en fait, sa culture musicale, elle allait de Charlie Parker à la dernière nouveauté underground. Alors, on a beaucoup parlé ces dernières heures de son amitié pour Alan Vega, qui était un artiste expérimental, d'avant-gardiste new-yorkais. Et voilà, il faisait ce pont entre la chanson française, la variété, et puis cette avant-garde new-yorkaise, new wave.
Merci mon Pierre Mikhaïlov d'être passé par le Loft Music. Tu viens souvent et c'est toujours un plaisir. Exactement, partagé.
Exactement, toujours un plaisir.
Merci beaucoup, mon Pierre. À bientôt. Et prends soin de toi et des tiens. Merci d'être resté avec nous pour cette heure passée en compagnie de Christophe qui nous a quittés malheureusement hier à l'âge de 74 ans. On se retrouve lundi avec Julie Zenati, Yvan Le Bolloc. Mardi, ce sera Patrick Bruel. Merci à toute la team du Loft Music avec Jamel à la réalisation, Camélia au standard, Enzo Ramos à la programmation. Dans quelques secondes, vous avez rendez-vous comme tous les soirs avec Didier Maistre. Donc, toute vérité est bonne à dire. Bye bye, bonne soirée et à lundi.